Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Parmi les héritiers de Napoléon, dont nous avons célébré cette année le bicentenaire de la mort, il est un fils dont les livres d'histoire ont peu retenu le destin. Et pour cause, Léon, le tout premier enfant de Napoléon Ier, fruit de ses amours avec la belle mais mal mariée Éléonore de Nuel de la Plaigne, fut un loser de première classe. À tout juste 20 ans, il ne lui reste quasiment rien de l'immense fortune que lui a laissée son illustre père. Dans cet épisode, je vous raconte son destin. Seconde partie, bretteur et querelleur en prison. Ne pas faire grand-chose de sa vie et se la couler douce n'empêche pas Léon de se rengorger à tout bout de champ des exploits de son glorieux père Napoléon Ier, mort à Sainte-Hélène alors que lui-même n'avait que 15 ans. Frustré de ne pas être à sa hauteur et furieux de ne savoir employer son énergie autrement que dans les plaisirs, il se montre extrêmement irritable, impétueux, son sang corse lui bout facilement dans les veines et il prend la très mauvaise habitude de se battre en duel pour un oui ou pour un non. À la suite d'une dispute au cours d'une partie de cartes, il se bat au pistolet contre l'ancien aide-de-camp du duc de Wellington et le tue. Son adversaire aurait-il eu le malheur de prononcer un mot qui fâchait, comme Waterloo ? Allez savoir, Léon pouvait démarrer au quart de tour pour des motifs bien plus futiles. Après les Trois Glorieuses, les journées révolutionnaires de juillet 1830, Léon a enfin l'occasion de s'illustrer sur le terrain militaire. Proclamé chef de bataillon de la garde nationale, il se sent enfin le fils de l'empereur. Il a 35 ans. Il est le portrait craché de son père tout en étant plus grand et en ayant l'air martial du soldat imbu des exploits qu'il n'a pas encore eu l'occasion d'accomplir. Derrière lui, les membres de la garde nationale se prennent tous pour des grognards de la vieille garde. Mais naturellement, cette situation à peu près stable et normale ne pouvait pas durer. Au bout de 20 mois, à battre le pavé parisien en se prenant pour Murat à Pratzen, Léon est suspendu de son grade dans la garde nationale pour refus de service et révoqué. Et il passe directement de la caserne à la prison, car il est à nouveau criblé de dettes. Et ses créanciers ont fini par le rattraper. Emprisonné à Clichy, il passe le temps en jouant du cor de chasse dans sa cellule. Mieux même, il compose des poèmes.
En ce lieu, je ris et je dors bien, comme si je ne devais rien. Et zon, 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 vive la prison où la vie est si bonne.
Ah bah dites donc Léon, c'était pas Napoléon, mais ça n'était pas Rimbaud non plus. Pendant que Léon est en prison, son oncle, le cardinal Fesch, espérant encore pouvoir faire quelque chose de ce bon à rien, a une idée lumineuse dont vous, chers auditeurs désormais instruits des principales qualités de Léon, pourrez juger de la pertinence. Il lui propose d'entrer dans les ordres. C'est dire s'il connaît bien son homme. Le comte Léon dans les ordres, même s'il distribue généreusement son argent et celui des autres et pratique intensivement l'amour de son prochain dans les coulisses des théâtres et les maisons closes de la capitale, Léon ne se voit pas du tout renoncer aux plaisirs terrestres. L'odeur de sainteté, ça n'est pas fait pour lui. J'imagine même qu'il dut avoir du mal à retenir un fou rire quand son oncle évoqua ce projet devant lui. Monseigneur de Kellen, archevêque de Paris, ancien secrétaire et ami du cardinal Fesch, ira tout de même jusqu'à écrire au pape pour lui recommander Léon. Il ignorait sans doute que le mauvais garçon dont il plaidait la cause et vantait les qualités de futur parangon de vertu avait été catalogué comme le plus mauvais sujet de la prison où, comme n'importe où ailleurs, il va s'illustrer pour le pire.
Il a escroqué tous les restaurateurs et volé la montre du directeur, a fait bruit et scandale, on l'a mis au cachot. il a proposé à sa mère d'empoisonner son mari, le comte de Luxembourg, puis menacé sa mère de l'assassiner si elle ne lui donnait pas d'argent. Il a accusé le directeur de coucher avec sa mère, que ce dernier n'a jamais vue.
Au bout de 2 ans, le 23 octobre 1839, ce roué de Léon parvient à sortir de prison grâce à un habile stratagème, il faut le reconnaître. Écoutez plutôt. À l'époque, ce sont les créanciers qui paient le gîte et le couvert de leurs débiteurs emprisonnés. Léon fait donc paraître un avis de décès le concernant dans le Constitutionnel, unique gazette distribuée dans la ville où réside son principal créancier. À la nouvelle de sa disparition, celui-ci, un nommé Delpech, cesse immédiatement de s'acquitter des frais de pension de son débiteur, ce qui entraîne la libération immédiate de Léon. Par la suite, évoquant ce passage en prison dans ses mémoires, le comte Léon admettra avoir fait de la prison pour dette. Il était au demeurant difficile de nier une évidence de notoriété publique. Mais il jurera ses grands dieux que c'était par suite d'innombrables machinations ourdies contre lui. Avec notre cher Léon, impérial raté des faubourgs, le pire est toujours à venir. À sa sortie de prison, il va donc s'installer chez une certaine dame Le Sieur, magnétiseuse de son état, femme adultère, vivant avec un homme marié. Bientôt, la pseudo-magicienne devient également la maîtresse de Léon. Ce trio pitoyable, aussi dépravé que malhonnête, vivote dans un garni de la rue du Mail. Léon ne vit plus que d'escroquerie. Depuis longtemps déjà, Menval ne le voit plus ni ne le reçoit plus. Ses relations les plus fidèles sont ses partenaires de jeu et ses créanciers, tailleurs, cordonniers, fournisseurs, avocats, avoués, huissiers, horlogers, bijoutiers, restaurateurs. Il n'est pas un corps de métier auprès duquel Léon ne soit pas endetté. Ayant pu se procurer la somme nécessaire à son voyage, Léon, fuyant ses créanciers, se rend en Angleterre au début de l'année 1840. Il espère y rencontrer son cousin Louis-Napoléon Bonaparte. Il se présente donc 4 jours de suite au domicile de ce dernier, en y laissant à chaque fois sa carte. Mais le 4e jour, son cousin lui fait savoir qu'il ne peut pas le recevoir. Piqué au vif d'être retoqué comme un gêneur par le chef de la maison impériale qui n'est qu'un vague bâtard de Louis Bonaparte et d'Hortense, là où lui-même réduit à l'état de semi-clochard, est tout de même le bâtard de l'empereur en personne. Il lui adresse le 29 février 1840 une lettre injurieuse commençant par un trait condescendant « Mon petit cousin ». Et comme vous pouviez vous y attendre, il le provoque en duel. Ce duel avec son cousin Léon, Louis-Napoléon en accepte le principe. On se battra donc à Wimbledon. Notez au passage que l'on retrouve ici l'étrange fatalité des noms qui poursuivra Léon tout au long de sa vie, donnant une coloration ridicule à tout ce qui l'entoure. Entre son prénom, Léon, moitié de Napoléon et Éléonore, ses études à l'X qui n'est pas polytechnique mais cette boîte privée, son avoué nommé Boudin et maintenant son duel à Wimbledon, alors que le tennis n'a pas encore été inventé. Ce jour-là, on prévoit un beau duel, mais au moment où les duellistes sont enfin tombés d'accord sur le choix des armes et s'apprêtent à tirer, des policemen surgissent et les emmènent devant un juge qui les condamne à une forte amende dont nul ne sait comment Léon parvint à la payer. Après ce duel manqué face à son cousin à Wimbledon en février 1840, nous retrouvons Léon le 14 décembre suivant, attendant sur le quai de la Seine à Courbevoie, l'arrivée de la barque cénotaphe baptisée La Dorade, qui transporte les restes mortels de son père. Une fois encore, comme simple bâtard de l'empereur et personnalité peu reluisante, Léon doit se fendre d'une lettre au roi Louis-Philippe pour obtenir une place dans le cortège du retour des cendres de son papa, événement très couru, dont il est à la fois l'un des participants les plus « naturels », c'est le cas de le dire, mais aussi le moins désiré. Dans ces années-là, il est tellement fauché qu'il pose pour des peintres souhaitant réaliser des portraits de son père. Et il intente à sa propre mère un procès dont il tire quelques sous. En mal comme en bien, il doit encore tout à ses parents. En 1848, apprenons que son petit cousin, Louis-Napoléon Bonaparte, brigue la présidence de la République française, Léon est absolument furieux, car il estime que cette dignité lui revient en priorité. Il envisage donc de se présenter lui-même à la magistrature suprême. Mais il y renonce finalement et fait à ses futurs ex-électeurs des déclarations grandiloquentes sur son refus de diviser par sa candidature les chances de sa famille. En réalité, on se demande bien s'il se serait trouvé à ce moment-là un seul inconscient pour faire porter son suffrage sur cette tête folle de Léon. Bien évidemment, dès que Louis-Napoléon est élu, Léon demande à venir le voir. Mais jamais son cousin ne recevra
« cet hurluberlu sans conviction, sans principe, sans moralité d'aucune sorte ».
4 ans plus tard, quand Louis-Napoléon rétablit l'Empire, Léon se met finalement à chanter les louanges de ce petit cousin qu'il était fermement décidé à envoyer ad patres 12 ans auparavant. Il devine à juste titre qu'être l'oncle du nouvel empereur le rendra plus crédible auprès de ses créanciers présents et à venir. Les Napoléon 3, 2, 1 sont bien à la mode. Pourquoi pas Napoléon 0 ? N'est-ce pas le moment ou jamais ? Léon va en effet d'ailleurs en profiter à plein, puisqu'à la faveur du Second Empire, il va toucher l'importante somme de 300 000 francs que lui verse son petit cousin afin de respecter les dispositions testamentaires de Napoléon Ier, ainsi qu'une rente de 6 000 francs. Il s'installe alors dans une belle demeure à Saint-Denis. Mieux, puisque les temps sont favorables aux bonapartistes, Léon prend sa plus belle plume et écrit au pape pour lui demander de faire de lui le nouveau roi d'Italie. Et allons donc, n'ayant pu ni être empereur, ni prêtre, ni magistrat, ni garde national, ni prisonnier modèle, ni poète, il pouvait bien s'essayer à la royauté. Bien élevé, le pape lui adresse sa bénédiction pour toute réponse. On ne voulait pas de lui comme roi d'Italie ? Qu'importe, il allait être député, pensait-il. Il se présente en 1857 aux législatives à Saint-Denis. Seulement, il a beau être enthousiaste, le préfet ne peut décemment pas
donner l'estampille officielle à ce candidat perclus de dettes et pensionnaire au Mont-de-Piété.
Et c'est un rêve de plus qui tombe à l'eau. Quel domaine de l'activité humaine n'a-t-il pas encore exploré ? L'industrie ? Fort bien ! Notre comte Léon investit le legs de l'empereur dans des entreprises aussi ineptes qu'aventureuses. Il s'occupe de chemins de fer, de tracés de boulevards, il crée une fabrique d'encre et, je cite, il
propose le reboisement et le défrichement de toutes les terres incultes de France, fait fabriquer des hamacs, propose des modèles de nautiles sous-marins. Fait de tout, braconne dans toutes les industries.
Roi d'Italie, député, entrepreneur, tout. Il aura vraiment tout essayé, mais rien ne fonctionne jamais comme prévu. Les échecs s'accumulent et Léon s'aigrit, vieillit, n'a plus le sou. Mais à qui emprunter de l'argent qu'il n'ait déjà pas sollicité 20 fois ? Car il a grand besoin d'argent pour pouvoir épouser la fille de son jardinier, une certaine Françoise Fanny Jouet, couturière âgée de 25 ans de moins que lui. Il a déjà 2 fils avec elle et souhaite régulariser leur situation. Il redevient donc le tapeur professionnel, le gêneur, l'importun qu'il n'a jamais vraiment cessé d'être. Sans aucun amour-propre, Léon sollicite indifféremment son demi-frère, le comte Walewski, qui est alors ministre des Affaires étrangères, James de Rothschild, ou son principal mécène, son cher petit cousin, pour qu'il l'aide à financer son mariage. Seul Napoléon III accepte encore de régler ses dettes et de lui prêter quelque argent. Léon épouse Françoise le 2 juin 1862. En juillet 1864, Napoléon III paie ses dettes pour la dernière fois et lui fait comprendre que cette fois, ça n'est plus la peine d'y revenir. En fait, bonne patte, l'empereur déchu maintiendra la pension de Léon sur sa cassette personnelle jusqu'à sa propre mort le 9 janvier 1873. Après quoi, le robinet sera bel et bien fermé. Désormais âgé de 70 ans, Léon est maintenant à l'abri de la contrainte de corps, de sorte qu'il peut rentrer faire des dettes dans son pays, la France, sans y risquer la prison. Après une longue errance entre Toulouse, Bordeaux et Tours, la famille Léon échoue à Pontoise, dans une petite maison minable de la rue Beaujon. C'est ici que le fils Léon va passer ses derniers jours dans une souffrance et un dénuement épouvantables. Dans leur gourbi pontoisien, les Léons n'ont presque plus de meubles. Les derniers portraits de l'empereur sont vendus l'un après l'autre. Léon passe de longues heures assis dans un fauteuil, à fixer le vide en ressassant ses souvenirs. À quoi pense-t-il ? À son père le recevant aux Tuileries ? À sa mère, qui fut l'une des plus belles femmes de l'Empire ?
Sa vie l'a menée des marches du trône à cette chaise bancale miraculeusement échappée aux saisies et aux brocanteurs,
écrit Isabelle Bricard. Rien ! Léon, fils naturel de Napoléon Ier, n'a plus rien. Enfin si, tout bien considéré, il lui reste tout de même quelque chose de son côté Bonaparte. S'il n'a pas hérité d'un trône, il a hérité du cancer des intestins, dont son grand-père et son père sont morts avant lui, et qui va l'emporter lui aussi le 14 avril 1881. Léon est inhumé dans la fosse commune du cimetière de Pontoise, entre quatre planches que sa femme Françoise a pu payer en faisant la manche auprès de ses voisins. Françoise s'engage ensuite comme femme de ménage chez une cuisinière à la retraite. La belle-fille de l'empereur Napoléon Ier, femme de ménage à Pontoise. Voilà l'image d'Épinal que Léon lègue à la postérité. Si son père fut un astre brûlant, selon la formule de Dominique Vivant de Non, que dire alors de lui, de Léon ? Sinon qu'il fut, à son exact opposé, une sorte de trou noir, d'éclipse, de puits sans fond. Il est vrai qu'être à la hauteur d'un père comme Napoléon était un défi impossible à relever, tant il est vrai, comme l'aurait dit La Rochefoucauld, que les grands noms abaissent au lieu d'élever ceux qui ne les savent pas soutenir. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation a été coordonnée par Victor Nolot. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Pour ma part, je vous dis à très bientôt.